Chapitre 20. La grue dorée. Une fois le vent tombé, la pluie diminua, mais des nuages gris continuèrent à cacher le soleil. Le crachin, cependant, se révéla suffisant pour mouiller les cheveux de Rand et tremper sa veste noire brodée de fil d'or tandis qu'il inspectait le champ de bataille. Loghain avait hissé un dôme d'air qui le protégeait de la pluie. Rand aurait pu l'imiter, mais il craignait que Loustérine en profite pour reprendre le contrôle du Saïdine. Le spectre semblait disposé à attendre l'ultime bataille pour mourir, mais quelle confiance pouvait-on accorder à un fou ?
« Un fou ?» murmura Loustérine. « En quoi suis-je plus cinglé que toi ?»
Content de sa saillie, il éclata d'un rire de dément. Régulièrement, Nandera regardait Rand par-dessus son épaule. Grande et fine, ses cheveux gris cachés sous son choufa ocre, elle dirigeait les promises, celles qui se trouvaient de ce côté du mur du dragon en tout cas, mais avait choisi de prendre le commandement des gardes du corps du Karakarn. Ses yeux verts, soit tout ce qu'on voyait de son visage au-dessus du voile noir, n'exprimaient rien de spécial. Pourtant, Rand aurait juré qu'elle s'inquiétait pour lui parce qu'il s'exposait à la pluie. Les promises de la lance notaient tout ce qui sortait de l'ordinaire. Avec un peu de chance, Nandera n'en parlerait pas à tout le monde.
« Tu dois me faire confiance, » dit Loustérine. « Oui, te fier à moi. Par la lumière. » Voilà que je supplie une simple voix dans ma tête.
Nandera et les 49 autres promises voilées avaient formé un cercle serré autour de Rand. Méfiantes, elles enfonçaient leurs lances dans tous les cadavres de Trolloc et de Myrdraal qu'elles dépassaient. Comme si de rien n'était, elles enjambaient les membres et les têtes coupées garnies de cornes, de défenses ou de crocs. De temps en temps, un Trolloc gémissait ou tentait de fuir en rampant, plus rarement d'attaquer en rugissant. Mais elles étaient promptes à lui régler son compte. Combattre des Trollocs, c'était comme affronter des chiens enragés. Tuer ou être tué. Pas de pourparlers, de reddition, ni d'hésitation. Jusque-là, Rand réussissait à tenir les vautours à distance. Mais des corbeaux et des corneilles avaient envahi le charnier, leurs ailes noires mouillées brillant bizarrement. Si ces oiseaux étaient des espions du ténébreux, ça ne les empêchait pas de picorer les yeux des Trollocs ou de leur arracher des lambeaux de chair. Dans la bouillie de monstres, ces charognards trouvaient partout leur bonheur. Prudent, ils n'approchaient pas des Myrdraal et évitaient aussi les Trollocs qui gisaient trop près de leur chef. Un comportement qui ne trahissait rien de spécial, sinon une judicieuse prudence. Selon toute vraisemblance, la puanteur des blafards repoussait les oiseaux. Une bonne chance, car leur sang aurait pu faire fondre de l'acier. Toutes les caractéristiques d'un poison pour les charognards. Les soldats survivants tiraient sur les oiseaux, les taillaient en pièces avec leurs armes ou les massacraient à grands coups de pelle, de houe ou de râteau. Bref, tout ce qui pouvait servir à frapper. Au Saldaea, comme ailleurs dans les terres frontalières, laisser un corbeau ou une corneille en vie était impensable, parce que ces oiseaux étaient presque toujours des espions du ténébreux. Mais là, il y en avait beaucoup trop. Si des centaines de petits cadavres gisaient parmi les monstres morts, pour chacun, 100 autres arrivaient, prêts à dévorer tout ce qui leur tomberait sous le bec, y compris les dépouilles de leurs semblables. De guerre lasse, les Achamans et les Aes Sedai n'essayaient plus d'éliminer ces nuisances.
« Je n'aime pas que mes hommes se fatiguent comme ça, » dit Loghain.
« Ces hommes !»«
Même chose pour les sœurs. Gabrel et Tovain seront épuisés ce soir. »
Les deux Aes Sedai étant liés à lui, il savait de quoi il parlait.
« Et s'il y a une autre attaque ?»
Autour du manoir et de ses dépendances, des feux apparaissaient et disparaissaient, si vite qu'il fallait s'abriter les yeux quand on les regardait. Inlassables, les Achamans et les Aes Sedai incinéraient les charognes. Pour faire un seul bûcher, il aurait fallu travailler encore plus. Avec un peu moins de 20 Aes Sedai et une dizaine d'Achamans, réduire en cendres des milliers de monstres prendrait du temps. D'ici là, très probablement, la puanteur de la décomposition s'ajouterait aux odeurs répugnantes qui planaient déjà dans l'air. Le sang des créatures des ténèbres puait, tout comme le contenu de leurs entrailles. Un détail auquel il valait mieux ne pas penser. Entre la colonne vertébrale du monde et le manoir, il ne devait pas rester un fermier ou un villageois vivant. Car les Trollocs venaient sûrement de là, via le portail situé à l'extérieur du sanctuaire Shangtai. Au moins, le foyer de Loyal était intact. Les Trollocs ne seraient entrés pour rien au monde dans un sanctuaire. Même chose pour les Myrdraal, sauf si on les y forçait. Et il faudrait y mettre de l'énergie.
« Tu préférerais qu'ils pourrissent sur place ?»
demanda Katswane, comme si elle n'avait aucun avis sur la question. Pour ne pas le souiller de sang, elle avait relevé l'ourlet de sa jupe verte. À part ça, elle avançait parmi les corps déchiquetés avec la même indifférence que les promises. Pratique, la légende avait tissé un petit dôme contre la pluie. Après l'avoir vu faire, Alivia l'avait imité. Rand insistait pour que ses sœurs transmettent leur savoir à la Séane Chanienne, mais dans l'esprit de ces femmes, ça n'entrait pas dans leur serment de loyauté. Alivia se tenait à l'écart, les Aes Sedai ne s'en plaignaient pas, et personne n'essayait de changer les choses. À cause des visions de Mine, Nineveh avait refusé aussi. Quant à Katswane, elle affirmait ne pas être du genre à former des naturels.
« Si on ne faisait rien, ce serait un affreux charnier, » dit Mine.
Même si elle s'efforçait de ne pas regarder le sol, il lui fallait éviter les pires immondices, et ses injonctions contradictoires lui conféraient une démarche titubante. Pour ne rien arranger, elle commençait à être trempée, ses boucles collées sur le crâne. Pourtant, le lien ne charriait ni frustration ni indignation. De la colère, en revanche, dirigée contre Loghain, si on se fiait au regard noir qu'elle lui lançait.
« Où iraient les domestiques et les divers employés ?»
ajouta-t-elle.
« Comment vivraient-ils »«
Il n'y aura pas d'autre attaque, » dit Rand. « Pas avant que celui qui a lancé celle-là apprenne qu'elle a échoué. Et peut-être pas après. Les monstres ont chargé en force. Les Myrdral ne divisent jamais leurs troupes. »
Loghain grogna, mais il ne pouvait rien dire contre ça.
Rand jeta un coup d'œil au manoir. Par endroits, les cadavres touchaient presque les murs. Pas un seul n'était entré, mais Loghain a raison. Ça n'est pas passé loin. Sans les Aes Sedai et les Achaman arrivés avec l'ancien faux dragon, l'issue aurait été différente. Oui, ça avait tenu à un rien. Et s'il y avait une autre attaque plus tard? À l'évidence, quelqu'un connaissait le petit secret d'Ishamael. Ou l'homme aux yeux bleus de sa vision était-il lui aussi capable de localiser Rand? Une autre attaque serait plus massive encore, ou elle viendrait d'une direction inattendue. Fallait-il autoriser Loghain à amener plus d'Achaman?
« Tu aurais dû les tuer tous, » marmonna Loustérine. « C'est trop tard maintenant. Trop tard.
La source est purifiée, vieux fou. »«
C'est vrai. Mais le sont-ils, eux et moi ?»
Rand s'était posé la question à son propre sujet. Une moitié de sa double blessure venait d'Ishamael, et l'autre de la dague de Padan Fain, souillée par Shadar Logoth. Les plaies pulsaient souvent, et à ces moments-là, elles semblaient vivantes. Le cercle de promis se desserra légèrement pour laisser passer un vieux serviteur au long nez qui semblait encore plus décati qu'Étienne. Pour s'abriter, il brandissait une double ombrelle du peuple de la mer, qui avait perdu toutes ses franges et dont la toile bleue était percée en plusieurs endroits. Du coup, des fuites imbibaient d'eau sa veste jaune, et la plus grosse tombait directement sur son crâne. Son duvet blanc collé au cuir chevelu, le pauvre homme aurait eu l'air moins mouillé s'il ne s'était pas protégé. Cette ombrelle était sans doute l'héritage d'un des ancêtres d'Algarin. Une sorte de trophée ou de souvenir, dont il aurait été intéressant de connaître l'histoire, parce que les Atta Admiré ne se défaisaient pas aisément de l'ombrelle d'une maîtresse des vagues.
« Seigneur dragon !»
dit le vieux type en s'inclinant, ce qui exposa son dos aux fuites.
« Verin Sedai m'a ordonné de te remettre ce pli sans délai. »
Dessous sa veste, le domestique sortit une feuille pliée et scellée. Rand la fourra dans sa poche avant que la pluie ait fait fondre l'encre.
« Merci, mais ça aurait pu attendre mon retour à l'intérieur. Rentre vite, mon ami, avant d'être trempé comme une soupe. »
« Elle a insisté, seigneur dragon, et c'est une Aes Sedai. »
Voyant que Rand acquiesçait, le vieil homme s'inclina, puis repartit lentement en direction du manoir. Le dos très droit, il semblait ne pas s'apercevoir que son ombrelle n'était qu'une passoire. Oui, Verin était une Aes Sedai, et tout le monde obéissait aux sœurs, même en Théar, où on ne les aimait pas beaucoup. Qu'avait donc à dire Verin pour écrire un message? Passant un pouce sur le sceau, Rand continua son chemin. Sa destination, une des granges au toit de chaume plus roussi, celle où des Trollocs étaient entrés. En veste marron ordinaire, ses bottes maculées de boue, le gros type qui montait la garde se redressa et jeta un bref regard à l'intérieur. Derrière Rand, les promis se déployèrent pour encercler la grange. Le jeune homme s'arrêta devant la porte, Mine et les autres s'immobilisant près de lui. Loghain marmonna un juron. À la lumière des deux lampes accrochées aux poutres, on voyait que des mouches couvraient toutes les surfaces, y compris le sol poussiéreux semé de paille. Et au moins autant d'insectes bourdonnaient dans l'air.
« D'où viennent-elles ? »
demanda Rand. Si Algarin n'était pas riche, on n'aurait rien pu reprocher à l'entretien de ses granges et de ses étables. Le gros type sursauta, l'air coupable. Bien plus jeune que la plupart des autres domestiques, il était pourtant à moitié chauve et ridé autour de la bouche et des yeux.
« Je n'en sais rien, seigneur, »
répondit-il en se tapotant le front d'un index crasseux. Le regard rivé sur Rand, il refusait de poser de nouveau les yeux sur la grange.
« Je suis sorti prendre l'air et, à mon retour, elles étaient là. Au début, j'ai cru que c'était des mouches mortes, mais... »
Rand secoua la tête, dégoûté. Ces mouches étaient bien vivantes, hélas. Tous les défenseurs de cette grange n'avaient pas péri, mais on y avait rassemblé les cadavres des hommes de Bachéré. Au Saldaéa, on abominait les funérailles sous la pluie. Personne n'aurait pu dire pourquoi, mais il était hors de question d'enterrer quelqu'un quand le ciel déversait ses larmes. 19 hommes gisaient sur le sol, aussi bien alignés qu'il était possible lorsque manquaient beaucoup de membres et de têtes. Malgré tout, leurs frères d'armes avaient lavé le visage et fermé les yeux des défunts. Ces morts expliquaient la présence de Rand, non qu'il fût venu les saluer ou quoi que ce soit de sentimental. Ces soldats, il les connaissait à peine. Juste de quoi identifier un visage de ci, de là. Non, s'ils se trouvaient là, c'était pour se rappeler qu'une victoire, même écrasante, avait un prix. Cela dit, ces hommes ne méritaient pas de finir sous une marée de mouches.
« Moi, je n'ai pas besoin de pense-bête, »
grogna Loustérine. « Peut-être, mais je ne suis pas toi. Il faut que je m'endurcisse. »«
Loghain, débarrasse-nous de ces fichues mouches. »«
Tu es plus dur que je l'ai jamais été, »
fit Loustérine. Soudain, il éclata de rire.
« Et si tu n'es pas moi, qui es-tu donc ?»«
Me voilà promu incinérateur de mouches, »
grogna Loghain, vexé. Rand se retourna, furieux, mais Alivia parla avant qu'il ait pu exploser.
« Laisse-moi essayer, seigneur, »
demanda-t-elle pour la forme. À l'instar d'une Aes Sedai, elle n'attendit pas la réponse. Quand elle s'unit au Saïdar et canalisa, Rand en eut la chair de poule. Quand il pleuvait, même peu, les mouches s'abritaient toujours parce qu'une seule goutte suffisait à les clouer au sol, où elles devenaient des proies faciles, jusqu'à ce que leurs ailes aient séché. Pourtant, en un éclair, toutes s'envolèrent et filèrent vers la porte, comme si la pluie n'était plus un problème. Un véritable rideau de mouches. Rand chassa les insectes qui percutaient son visage, et Mine couvrit le sien de ses mains. Dans le lien, le dégoût dominait tout le reste. Mais les mouches cherchaient uniquement à fuir. En quelques secondes, toutes furent parties. Le gros type chauve dévisageait Alivia, la bouche ouverte. Pris d'une quinte de toux, il cracha deux mouches dans sa paume. D'un regard noir, Katsuane l'incita à refermer la bouche. Un seul regard, oui. Mais cette femme était une légende.
« Ainsi, tu nous espionnes, »
dit-elle à Alivia. Là encore, en la foudroyant du regard. Mais Alivia ne broncha pas. À ses yeux, les Aes Sedai n'étaient pas si impressionnantes que ça.
« Et je mémorise ce que je vois. Si je dois aider le Seigneur Dragon, il faut bien que j'apprenne des choses. Pour tout dire, j'en ai appris plus que vous croyez. »
Mine eut un étrange bruit de gorge, puis de la colère déferla dans le lien. Mais la Séan Chanienne blonde l'ignora.
« Tu n'es pas en colère contre moi ?»
demanda-t-elle à Rand, sincèrement inquiète.
« Pas du tout. Apprends tout ce que tu peux. Tu t'en tires très bien. »
Alivia s'empourpra et baissa la tête comme une jeune fille émue par un compliment inattendu. Malgré quelques ridules au coin de ses yeux, il était difficile de garder à l'esprit qu'elle avait 100 ans de plus que la doyenne des Aes Sedai, et pas 5 ou 6 ans de moins que Rand. Il devait trouver quelqu'un pour la former.
« Rand Altor !»
rugit Mine, les bras croisés.
« Tu ne laisseras pas cette femme te... »«
Tes visions ne sont jamais fausses, » coupa Rand.
« Tout ce que tu vois se produit. Tu as essayé d'altérer le cours des événements, mais ça n'a jamais marché. C'est toi qui me l'as dit, Mine. Pourquoi crois-tu que ce sera différent cette fois ?»«
Parce qu'il faut que ce le soit !»
s'écria Mine. Elle se pencha en avant, comme si elle allait bondir sur Rand.
« Parce que je veux que ce soit différent. Et parce que ça le sera. D'ailleurs, je ne sais pas toujours ce qu'il advient de mes visions. Les gens ne sont pas des pions. » Sur Moiraine, je me suis lourdement trompé. Dans son avenir, je voguais une multitude de choses, et elle est morte. D'autres visions ont pu être pareillement fausses.
Celles qui te concernent doivent être vraies, cacta Loustérine. Tu l'as promis.
Loghain se rembrunit et secoua la tête. À l'évidence, il n'aimait pas entendre Mine douter de son don. Rand regrettait presque de lui avoir parlé des visions de la jeune femme. À l'époque, ce n'était qu'un encouragement sans conséquence. Pourtant, Loghain avait demandé à une Aes Sedai de lui confirmer les images de Mine. Rusé, il avait eu la sagesse de cacher ses doutes au véritable dragon.
« Je ne vois pas pourquoi cette femme s'accroche tellement à toi, »
intervint Katsuane. Elle fit la moue, pensive, puis soupira.
« Tu es plutôt joli garçon, je suppose, mais ça me passe bien au-dessus de la tête. »
Pour s'épargner une nouvelle dispute avec Mine, elle appelait ça une conversation mais il n'était jamais dupe, Rand sortit la missive de Vérine et brisa le sceau en forme de tête de serpent. L'écriture minuscule de la sœur couvrait la feuille, quelques lettres brouillées par une goutte de pluie. Pour lire, Rand approcha d'une lanterne, qui dégageait une légère odeur d'huile rance.
« Comme je l'ai dit, j'ai fait tout ce que je pouvais ici. Pour être fidèle au serment que je t'ai prêté, il vaut mieux que je sois ailleurs. Du coup, je m'en suis allé avec Thomas. Au fond, il y a plusieurs façons de te servir,
et toutes te seront utiles. Je suis convaincu que tu peux te fier à Katsuane et suivre aveuglément ses conseils. En revanche, méfie-toi des autres sœurs, même celles qui sont liées à toi. Pour une sœur noire, un serment ne vaut rien, et les autres, même si elles sont restées du côté de la lumière, peuvent l'interpréter d'une façon qui te déplairait. D'ailleurs, tu sais déjà que quelques-unes ne se sentent pas tenues à une stricte obéissance. De là à l'insubordination, il n'y a qu'un pas. En conclusion, que tu t'appuies ou non sur Katsuane, selon moi, tu devrais le faire. N'oublie pas mon conseil. Méfie-toi de tout. Vérine.
Rand grogna entre ses dents. Quelques-unes ne se sentent pas tenues à une stricte obéissance.
Aucune, oui.
En règle générale, elles exécutaient ses ordres, mais la lettre ne correspondait pas toujours à l'esprit. D'ailleurs, Vérine elle-même, elle le mettait en garde contre les sœurs, mais elle venait de filer sans lui dire où, ni ce qu'elle avait l'intention de faire. Craignait-elle que ça lui déplaise, ou était-ce le goût du secret des Aes Sedai? Ces femmes dissimulaient comme elles respiraient. Quand Rand lui tendit la lettre, Katsuane arqua un sourcil. Pour réagir si violemment, elle devait être très surprise. Cela dit, elle se ressaisit et lut le texte.
« Une femme qui porte bien des masques, » dit-elle en redonnant la feuille à Rand. « Mais son conseil est excellent. »«
Comment ça, bien des masques ?» Rand allait demander des explications quand Loyal et l'ancien Aman entrèrent, chacun portant sur l'épaule une hache aux manches interminables et aux tranchants ornementés. L'ancien faisait grise mine, et les oreilles de Loyal frémissaient. D'excitation, supposa Rand, mais il pouvait se tromper.
« J'espère que nous ne dérangeons pas, » dit l'ancien, son regard navré errant sur la rangée de cadavres.
« Pas du tout, »
fit Rand, en fourrant la lettre dans sa poche.
« J'aimerais pouvoir venir à ton mariage, Loyal, mais... »
« Rand, c'est fait, »
dit l'augier. Il devait bel et bien être excité. Couper la parole aux gens n'était pas dans ses habitudes.
« Ma mère a insisté. Nous aurons peu de temps pour fêter ça, sinon pas du tout. Tu comprends, il y a la souche, et moi qui... »
Aman posa une main sur le bras de Loyal.
« Quoi ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. »
D'un index gros comme une saucisse, Loyal lissa sa moustache naissante. Avait-il failli dire quelque chose qu'il devait garder pour lui ? Pourquoi pas ? Les Augiers aussi avaient des secrets. Comme le montrait la lettre de Vérine, ils n'étaient pas les seuls.
« Je te promets une chose, Rand. Quoi qu'il arrive, je serai avec toi lors de l'ultime bataille. Oui, quoi qu'il arrive. » « Mon garçon, » dit Aman, « je crois que tu ne devrais pas. »
Il n'alla pas plus loin, poussant un soupir capable de renverser un rocher. Rand approcha de son ami et lui tendit la main droite. Avec un grand sourire, chez un ogier, ce n'était pas seulement une image, Loyal la prit dans un de ses battoirs. De si près, Rand dut incliner la tête pour croiser le regard de son vieil ami.
« Merci, Loyal. Tu ne peux pas imaginer à quel point t'entendre dire ça me fait du bien. Mais j'aurai besoin de toi avant. »«
Besoin de moi ?»
Loyal, j'ai scellé tous les portails que j'ai repérés. À Kemlin, à Kaerien, à Elian et à Théar, les chemins sont inaccessibles. Et j'ai piégé l'accès qui s'est ouvert à Faldara. Hélas, impossible de localiser le portail de Farmading. Même quand je sais qu'il y en a un dans une ville, il me faut de l'aide pour le localiser. Et il y a bien sûr toutes les cités qui n'existent plus. Tu dois trouver ces portails pour moi, mon ami. Sinon, les Trollocs iront où ils voudront. Et personne ne les attendra quand ils débouleront au cœur d'Andor ou de Kaerien.
Le sourire de Loyal s'évanouit. Les oreilles et les sourcils en berne, il soupira.
« Je ne peux pas, Rand. Je dois partir dès l'aube, et j'ignore quand je reviendrai à l'extérieur. »«
Je sais que tu es resté longtemps hors d'un sanctuaire, »
fit Rand, d'un ton qu'il aurait voulu plein de compassion, mais ce n'était plus à sa portée.
« Je parlerai à ta mère. Je la convaincrai de te laisser repartir dans le monde, quand tu te seras un peu reposé. »«
Il a besoin de plus que ça !»
lâcha Aman. Il posa l'embout de sa hache sur le sol et saisit le manche à deux mains. Malgré la réputation de pacifisme des Augiers, il semblait peu commode.
« Il est resté plus de 5 ans à l'extérieur. C'est bien trop long. Au minimum, il lui faudra des semaines de repos dans un sanctuaire. Des mois seraient préférables. Rand, ces décisions-là n'appartiennent plus à ma mère. Pour être franc, elle vient de s'en apercevoir et ça lui a flanqué un choc. C'est Erith qui doit trancher, mon épouse. »
Dans la voix puissante de l'ogier, Rand capta une fierté hors norme. Bombant le torse, Loyal eut de nouveau un grand sourire.
« Et moi qui ne t'ai pas encore félicité, » dit Rand en tapotant l'épaule du bon géant.
Sa tentative de socialisation sonnait creux à ses propres oreilles, mais il n'avait rien de mieux en magasin.
« S'il te faut des mois, prends-les. Mais j'ai quand même besoin qu'un ogier localise les portails.
Demain, je t'accompagnerai au sanctuaire Shangtai, et j'essaierai de recruter un des siens. »
Aman baissa les yeux sur ses mains et marmonna dans sa barbe, un ton semblable à celui d'un bourdon de la taille d'un mastif coincé dans une jarre géante. Apparemment, il menait un débat intime.
« Tu risques de devoir attendre longtemps, »
fit Loyal.
« Tu sais que nous détestons les décisions hâtives. À vrai dire, pendant la souche, je ne suis pas sûr qu'on te laissera entrer dans le sanctuaire. Rand, si je ne peux pas revenir avant Tarmon Gaidon, tu me raconteras ce qui se sera passé en mon absence, pas vrai? Sans que je doive t'arracher chaque mot.
Si c'est possible, je le ferai.
Si c'est possible, ricana Loustérine. Tu as juré que nous mourrons lors de l'ultime bataille. Tu l'as juré, espèce de cinglé.
Il te dira tout,
intervint Mine.
Tant pis si je ne dois pas le lâcher d'un pouce, jusqu'à ce qu'il t'ait tout raconté.
Dans le lien, la colère bouillonnait. Mine semblait vraiment lire les pensées de Rand. Sur ces entrefaites, l'ancien Aman s'éclaircit la gorge.
« Si on accepte les maçons, je suis l'ogier qui connaît le mieux l'extérieur. En d'autres termes, pour ta mission, Rand, je suis le meilleur candidat. »«
Toi !»
s'écria Katswane.
« On dirait que tu rends fou même les ogiers. »
Un ton amer, mais un visage toujours aussi impassible. Comment deviner ce qui bouillonnait derrière les yeux noirs de la légende? Les oreilles pétrifiées, Loyal manqua laisser tomber sa hache.
« Vous et la souche, ancien Aman, la grande souche. Je laisserai ça entre tes mains, mon garçon. Ton discours était simple, mais très percutant. Si tu veux mon avis, ne cherche pas à le fleurir. Reste clair et éloquent, et tu en surprendras plus d'un. Ta mère la première. »
Il semblait impossible que les oreilles de Loyal se raidissent plus. Pourtant, elles le firent. Sa bouche s'ouvrit, mais rien n'en sortit. Ainsi, comprit Rand, son ami allait parler devant la souche. Qu'y avait-il de secret là-dedans?
Seigneur Dragon, le seigneur d'Avram est de retour.
Bachérée sur les talons, Elsa Penfell entra dans la grange. Dans sa robe d'équitation vert foncé, elle était superbe. Quand ses yeux se posèrent sur Rand, elle rayonna, extatique. Une alliée dont il n'aurait pas à se méfier, tant elle le vénérait avec une ferveur proche du fanatisme.
« Merci, Elsa. Tu devrais retourner au nettoyage. Il y a encore du travail. »
Les lèvres pincées, Elsa balaya d'un regard jaloux les chanceux qui pourraient rester avec Rand. Puis elle s'inclina et sortit. Du fanatisme, oui. Petit et mince, le maréchal du Saldaea portait sur la hanche droite le bâton d'ivoire de son grade, avec en guise de pommeau une tête de loup en or. En veste grise brodée d'or, le bas de son pantalon enfoncé dans des bottes à revers parfaitement cirées, quoiqu'un peu tachées de boue, il était l'image même de la dignité et de la rigueur protocolaire. Tant mieux, parce que de la dignité et de la rigueur protocolaire, il lui en avait fallu, lors de sa dernière mission. Sans nul doute, les Séanchaniens eux-mêmes avaient eu vent de sa réputation. Les cheveux noirs striés de gris, il arborait une magnifique moustache en forme de corne inversée. Ses yeux inclinés pleins de tristesse, il passa devant Rand, la démarche typique des gens qui chevauchent tous les jours, et inspecta la rangée de morts, son regard s'arrêtant sur chaque visage. Si impatient qu'il fût, Rand lui laissa le temps de se recueillir.
« Je n'avais jamais rien vu de pareil, »
fit Bachéré tout en marchant.
Un raid massif venu de la flétrissure compte d'habitude un millier de trollocs. Le plus souvent, ça se limite même à quelques centaines.
Il s'arrêta devant un corps.
« Kirkun, combien de fois t'ai-je dit de mieux protéger ton flanc gauche ? Même face à des forces si réduites, il faut être 3 ou 4 fois plus nombreux que ces monstres pour ne pas finir dans leur chaudron. » Là dehors, j'ai cru avoir un avant-goût de Tarmon Gaidon, en miniature. Espérons que ce sera bien l'ultime bataille. Si nous survivons, je doute que nous aurons encore envie de ferrailler. Et pourtant, il le faudra, très probablement. Il y a toujours une bataille suivante. Et il en ira ainsi, jusqu'à ce que le monde entier se soit converti au paradigme de la feuille.
Au bout de la rangée, Bachéré s'arrêta devant un homme au visage fendu en deux dans le sens de la hauteur.
Askan avait un grand avenir. Hélas, il n'est pas le premier mort dont on peut dire ça.
Bachéré soupira et se tourna vers Rand.
La fille des 9 lunes te rencontrera dans 3 jours. À un manoir dans le nord de l'Altara, près de la frontière d'Andorre.
Il tapota sa veste.
J'ai une carte. La fille est déjà au lieu du rendez-vous. Mais pas sur des terres que les Séanchaniens contrôlent. En matière de secret, ces gens feraient passer les Aes Sedai pour des paysannes bavardes.
Katswane ricana.
« Tu soupçonnes un piège ?»
demanda Loghain, en faisant coulisser sa lame dans son fourreau. Un geste instinctif, peut-être. Bachéré haussa les épaules, mais lui aussi s'assura de la présence de son épée.
«
Je soupçonne toujours un piège. Mais ce n'est pas le problème. La haute dame Sourotte n'a jamais voulu que Monfort ou moi nous adressions à quelqu'un d'autre qu'elle. Même nos serviteurs étaient muets. Comme quand nous sommes allés à Eboudar avec Loyal.
Ma domestique, on lui avait coupé la langue,
dit Logier, dégoûté. Sur le manche de sa hache, ses phalanges blanchirent. Aman, lui, grogna de réprobation, les oreilles soudain très raides.
L'Altara vient de se choisir un nouveau roi, continua Bachéré. Mais au palais Tarasin, tout le monde marche sur des œufs et surveille ses arrières. Les Séanchaniens autant que les Altariens. Même Sourotte semblait tendue comme si une épée planait au-dessus de son cou.
L'angoisse de Tarmon Gaidon, avança Rand.
Ou du dragon réincarné. Je devrais être prudent. Les gens apeurés font des choses stupides. Quelles seront les modalités, Bachéré?
Le maréchal sortit la carte de sous sa veste et la déplia en revenant vers Rand.
Les Séanchaniens ont été très précis. La fille des Neuf Lunes viendra avec 6 souldames et autant de Daman, et ce sera sa seule escorte.
Alivia feula comme une chatte furieuse. Bachéré cligna des yeux avant de continuer. Sans nul doute, il se méfiait d'une Daman libre.
Tu pourras emmener 5 personnes capables de canaliser. La fille des Neuf Lunes supposera que tous les hommes qui t'accompagneront seront dans ce cas. Mais si tu veux que les deux délégations soient égales, tu pourras t'adjoindre une femme qui ne maîtrise pas le Saïdar.
Mine rejoignit Rand et lui passa un bras autour de la taille.
Non,
dit-il catégorique. Pas question d'entraîner la jeune femme dans un traquenard.
Nous en reparlerons,
souffla Mine, son obstination palpable dans le lien. La pire menace qu'une femme puisse proférer, songea Rand. À part, je vais te tuer. Le jeune homme frissonna. Cette pensée venait-elle de lui ou de Loustérin? Dans un coin de sa tête, le spectre fou ricana. Aucune importance. D'ici à 3 jours, un problème serait résolu. D'une façon ou d'une autre.
Et à part ça, Davram?
Soulevant le morceau de tissu humide posé sur ses yeux, prudemment, afin que son angréal bracelet et bague ne s'accrochent pas dans ses cheveux, Nineveh s'assit au bord de son lit. Désormais, elle ne se séparait plus de l'angréal et de ses divers terangréals camouflés en bijoux. Alors que tant d'hommes attendaient qu'on s'occupe de leurs terribles blessures, certains ayant perdu une main ou un bras, il aurait semblé mesquin de demander une guérison pour une migraine. Par bonheur, l'écorce de saule s'était révélée tout aussi efficace, mais un peu moins rapide. Une des bagues de l'ancienne sage-dame arborait une pierre vert pâle, qui paraissait briller faiblement à l'intérieur. Alors qu'il ne bougeait pas en réalité, ce bijou semblait vibrer en permanence autour du doigt de Nineveh. Au rythme des vibrations, elle déduisit qu'on canalisait du Saïdar et du Saïdin à l'extérieur, ou peut-être à l'intérieur. Selon Katswane, l'artefact était capable d'indiquer une direction, mais elle n'aurait su dire comment. Tant pis pour la légende et ses prétendues connaissances supérieures. Nineveh rêvait de balancer une vérité de ce genre à la face de l'imbuvable sœur, mais elle se retenait. Non que Katswane l'intimidât, sûrement pas, car elle était moins puissante qu'elle dans le pouvoir. Mais elle tenait à préserver un certain niveau d'harmonie. Sinon, elle n'aurait pas tenu sa langue devant cette fichue légende. Les appartements que Nineveh partageait avec l'âne étaient spacieux, certes, mais traversés de courants d'air, parce qu'aucune fenêtre n'était étanche. Au fil des générations, le manoir s'était tellement affaissé qu'il avait fallu raboter les portes pour qu'elles continuent à fermer. Du coup, elle aussi laissait passer de véritables bourrasques miniatures. Dans la cheminée, les flammes crépitaient et oscillaient, comme si elles avaient brûlé en plein air. Résultat, le tapis si vieux qu'on ne distinguait plus ses motifs était constellé de traces noires. Large et robuste, le lit à baldaquin soutenait un matelas tout cabossé, et les plumes des oreillers avaient tendance à se faire la malle. Quant aux couvertures, il fallait les examiner de près pour trouver un peu de la laine d'origine au milieu des reprises. Mais l'âne vivait là avec sa femme, et ça changeait tout. Quand ils étaient ensemble, les deux époux auraient juré résider dans un palais. Pour l'heure, l'âne se tenait devant la fenêtre où il était posté depuis le début de l'attaque, observant ce qui se passait dehors, ou étudiant le charnier qui était devenu les environs du manoir. Immobile comme une statue, sa veste verte parfaitement coupée mettant en valeur ses épaules, si large que sa taille en paraissait fine, l'âne arborait comme toujours son adori, une lanière de cuir qui retenait autour de son front ses longs cheveux noirs semés de gris sur les tempes. Un homme au visage dur, mais pourtant d'une grande beauté. Aux yeux de Nineveh, en tout cas, et que le reste du monde en pense ce qu'il lui chantait, à condition qu'elle ne soit pas là pour entendre. Et ce petit jeu-là, même Katswane ne s'y risquerait pas. À la main droite de Nineveh, la bague ornée d'un saphir sans défaut était glacée. Selon toute vraisemblance, l'âne était en colère, mais pas vraiment hostile. Avec cette bague, il fallait toujours se méfier. Savoir qu'une personne était furieuse ou agressive avait ses avantages, mais sans impliquer qu'on soit nécessairement l'objet de ses sentiments.
« Il est temps que je ressorte pour donner de nouveau un coup de main »,
dit Ninevé en se levant. « Pas encore », fit Lan sans se retourner. Quoi qu'en dise la bague, il semblait très calme et d'une fermeté inébranlable.
« Selon moi, Rain, une migraine indiquait qu'elle avait trop canalisé. C'est dangereux. »
La main de Ninevé vola vers Sanat, comme s'il en savait plus qu'elle sur l'art de canaliser ce fichu bonhomme. Eh bien, en un sens, c'était le cas. 20 ans passés auprès de Moiraine, avec le statut de champion, apprenait à un homme tout ce qu'il pouvait connaître du Saïdar.
« Je n'ai plus mal à la tête. Lan, je suis en pleine forme. »
« Mon amour, ne sois pas si irascible. Il reste à peine quelques heures avant le crépuscule. Demain, il y aura encore beaucoup de travail. »
La main gauche de Lan se referma sur la poignée de son épée, se rouvrit et se ferma encore. La seule partie de son corps qui bougea. Ninevé pinça les lèvres.
« Irascible, elle ?»
Indignée, elle tira sur le devant de sa jupe. Elle n'avait rien d'irascible. En privé, Lan invoquait rarement son droit d'imposer sa volonté, que les Atagnirés soient maudites d'avoir une idée pareille. Mais quand il s'y laissait aller, pas moyen d'en tirer quoi que ce soit. Bien entendu, Ninevé aurait pu s'enfuir, car il n'aurait rien fait pour l'en empêcher. Sur ce point, elle n'avait pas l'ombre d'un doute. Mais il n'était pas question qu'elle viole leur vœu de mariage, même de la plus infime façon. Cela dit, ça n'excluait pas l'envie de balancer son poing dans la figure d'un époux pourtant adoré. Flanquant plutôt un coup de pied dans sa jupe, l'ancienne sage-dame vint se camper près de Lan et glissa un bras sous le sien. Les muscles de l'ancien champion de Moiraine étaient tendus à craquer, comme s'il les bandait pour soulever un poids énorme. Pas pour la première fois, Ninevé déplora de ne pas être liée à Lan. Ainsi, elle aurait eu un indice sur ce qui le troublait. Le jour où elle mettrait la main sur Mirel, non, pas la peine de penser à cette garce. Les sœurs vertes, dès qu'il était question d'hommes, on ne pouvait pas leur faire confiance. Dehors, pas très loin dans la cour, Ninevé repéra 2 achamans en veste noire et les sœurs qui leur étaient liées. Autant que possible, elle évitait ces gens, les achamans pour des raisons évidentes et les sœurs parce qu'elles soutenaient Elaïda. Mais on ne pouvait pas vivre sous un toit, même dans un grand manoir, sans croiser de temps en temps des fâcheux et apprendre à les reconnaître. Harel Malévine, un kérienien, semblait encore plus large que nature parce qu'il arrivait à la poitrine de l'âne. Donalo Sandomere, originaire de Théar, arborait un grenat à l'oreille gauche. Avec sa barbe pointue soigneusement huilée, il en jetait. Mais Ninevé doutait que son visage ridé et parcheminé soit celui d'un noble. Malvin avait lié à lui Aisling Noon, une sœur verte aux yeux durs qui pimentait cette tirade de jurons des terres frontalières si osée que l'âne lui-même en faisait la grimace. Ninevé aurait voulu en savoir plus, mais son mari refusait de lui donner des explications. Sandomere avait capturé Ayako Norsoni, une petite sœur blanche aux longs cheveux noirs et au teint presque aussi cuivré que celui d'une Domani. Caractéristique rare chez les Aes Sedai, Ayako paraissait plutôt timide. Les deux femmes portaient leur châle à franges. Elles ne s'en séparaient presque jamais, peut-être par défi. Cela dit, elles semblaient s'entendre très bien avec leurs geôliers. Très souvent, Ninevé les avait vues bavarder avec eux, un comportement très éloigné de celui de vraies captives. En outre, l'ancienne sage-dame soupçonnait que Loghain et Gabrel n'étaient pas les seuls à partager un lit hors des liens du mariage. Une véritable honte. En bas, des flammes crépitèrent soudain. Devant Malévine et Aisling, 6 cadavres de Trolloc s'embrasèrent, et 7 autour de Sandomere et Ayako. Pour ne pas être ébloui, Ninevé cligna des yeux. Tenter de regarder ces flammes, c'était comme fixer 13 soleils de midi brillant dans un ciel sans nuages. Ces 4-là étaient liés. Ninevé le déduisit de la façon dont les flux de Saïdar bougeaient, avec une étrange raideur, comme s'ils étaient contraints et non pas guidés. Contraints par les 2 hommes, bien entendu. En réalité, ils essayaient, car les manœuvres de ce type ne fonctionnaient jamais avec la moitié féminine du pouvoir. Les tissages étaient du feu, et rien que du feu. Les flammes, songea Ninevé, se révélaient bien vives qu'elle l'aurait cru, avec un seul élément. Mais les 2 hommes canalisaient du Saïdin, et qui pouvait dire ce qu'ils ajoutaient à la force destructrice des femmes? En la matière, le peu dont Ninevé se souvenait, après son expérience avec Rand, ne lui donnait aucune envie de recommencer. Plus jamais ça. En quelques minutes, les brasiers s'éteignirent, laissant de petits tas de cendres sur une terre noircie compacte et craquelée. Les tissages ne faisaient guère de bien au sol.
« Tu ne peux pas trouver ce spectacle très distrayant, Lan. Alors à quoi réfléchis-tu ? »
« À tout et à rien. »
Sous sa main, Ninevé sentit les muscles de son mari se durcir encore. Dehors, de nouvelles flammes crépitaient.
« Partage-les avec moi, tes vagues idées. »
Ninevé réussit à mettre une nuance d'interrogation dans une phrase qui n'avait rien d'une demande. S'ils semblaient amusés par la nature de leurs vœux, Lan, quand ils étaient seuls, refusait d'obéir à la moindre injonction de sa femme. Aux requêtes, il accédait sans délai, enfin, presque tout le temps. Mais si elle lui ordonnait de ne pas salir le sol, il pouvait laisser ses bottes sales jusqu'au point où la boue s'en détachait toute seule.
Ce ne sont pas des idées plaisantes, mais si tu y tiens. Les Myrdral et les Trollocs me font penser à Tarmon Gaidon.
Oui, plutôt désagréable comme perspective.
Sans cesser de regarder par la fenêtre, Lan acquiesça. Sur son visage, impossible de lire quelque chose. En matière d'impassibilité, il aurait pu en remontrer à une Aes Sedai. En revanche, sa voix vibrait un peu.
C'est pour bientôt, Nineveh. Pourtant, Altor croit qu'il a tout le temps du monde pour négocier avec les Seanchaniens. Pendant que nous sommes ici, des créatures des ténèbres sont peut-être en train d'émerger de la flétrissure pour se déverser dans le...
Lan se tut. Se déverser dans le Malkier. Voilà ce qu'il avait failli dire. Le défunt Malkier, royaume assassiné dont il était originaire. Nineveh n'avait aucun doute sur son interprétation. Mais son mari reprit comme si de rien n'était.
Ces monstres s'en prendront au Chiennard, voire à toutes les terres frontalières. Et ça peut arriver la semaine prochaine ou demain. Et Altor peaufine son plan concernant les Seanchaniens. Au lieu de ça, il devrait envoyer quelqu'un convaincre le roi Eassar et les autres de retourner le long de la flétrissure, afin de remplir leur mission. Ensuite, il devrait rassembler toutes ses troupes et les conduire là-bas. L'ultime bataille y aura lieu, ainsi qu'au mont Shaiolghul. Si la guerre est quelque part, c'est là.
Submergé par la tristesse, Nineveh fit de son mieux pour le cacher.
« Il faut que tu y retournes, »
dit-elle. Lan tourna enfin la tête et plissa le front. Ses yeux bleus limpides étaient si froids. En eux, on ne voyait plus autant la marque de la mort, mais ils restaient glaciaux.
« Ma place est près de toi, cœur de mon cœur, pour toujours et à jamais. »
Nineveh rassembla tout son courage et s'y accrocha si fort qu'elle en eut mal au plus profond d'elle-même. Il aurait mieux valu qu'elle parle vite, avant que sa détermination l'abandonne, mais elle se contraignit au calme et à la lenteur.
« Un jour, tu m'as cité un dicton des terres frontalières. La mort est légère comme une plume, et le devoir plus lourd qu'une montagne. Mon devoir est de rester ici, pour empêcher Alivia de tuer Rand. Toi, je vais te conduire dans les terres frontalières, là où est ton devoir. Où veux-tu aller ? Tu as mentionné le roi Eassar et le Chiennard, un pays proche du Malkier. »
Lan dévisagea longuement sa compagne, puis il soupira, et les muscles de son bras se détendirent.
« Tu es sûr, Nineveh ? Si c'est oui, alors je veux bien aller au Chiennard. Pendant les guerres des Trollocs, les ténèbres ont utilisé la brèche de Tarwyn pour transférer une horde de monstres. Même chose il y a quelques années, lorsque nous cherchions l'œil du monde. Mais il faut que tu sois certaine. »
Certaine ? Comment Nineveh aurait-elle pu l'être ? Elle aurait voulu pleurer, crier à cet homme qu'il était un idiot, parce que sa place était auprès d'elle, pas dans un pays lointain où il crèverait en livrant sa guerre privée contre les ténèbres. Mais elle ne pouvait rien dire de tout ça. Lien ou pas lien, Lan était déchirée, elle le savait. Déchirée entre son amour pour elle et l'appel du devoir. Déchirée au point de saigner, comme si on l'avait poignardée. Elle ne voulait pas élargir sa blessure. En revanche, elle ferait en sorte qu'il ait une chance de survivre.
« Si je n'étais pas certaine, est-ce que je t'en parlerais ? Je n'ai aucune envie que tu partes, mais nous avons chacun notre devoir. »
Enlaçant sa bien-aimée, Lan la serra contre lui. Doucement d'abord, puis de plus en plus fort, au risque de l'étouffer. Nineveh ne s'alarma pas, lui rendant son étreinte jusqu'à ce qu'elle se force à le lâcher et à s'écarter de lui. Combien elle aurait aimé pleurer. Mais c'était la dernière chose à faire. Pendant qu'il remplissait ses sacoches de sel, l'ancienne sage-dame enfila une robe d'équitation vert rayée de jaune et choisit de solides chaussures. Puis elle sortit sans attendre que l'âne en ait terminé. Carré, doté d'un haut plafond et bourré d'étagères, la bibliothèque d'Algarine était très grande. Autour d'une longue table, à côté du râtelier à cartes, une demi-douzaine de fauteuils rembourrés attendaient les érudits. Aucun feu ne brûlait dans la cheminée, et toutes les lampes étaient éteintes. D'un filament de pouvoir, Nineveh en alluma trois, puis elle chercha les cartes qu'il lui fallait et les trouva très vite. Aussi vieille que la plupart des ouvrages, elle ferait l'affaire, parce que les pays ne changeaient pas beaucoup en deux ou trois siècles. Quand elle revint dans leurs appartements, Lan l'attendait au salon, ses sacoches sur une épaule et sa cape caméléon pendant dans son dos. Comme toujours, son visage aurait pu être celui d'une statue. Nineveh prit juste le temps d'enfiler un manteau, celui en soie bleue doublé de velours, puis ils sortirent et marchèrent en silence, la main de la jeune femme sur le poignet gauche de son époux. Dans l'écurie où étaient leurs chevaux, l'air sentait la paille et le crottin, comme toujours dans ces endroits. Mince et presque chauve, un palefrenier dont le nez avait dû être cassé plus d'une fois soupira quand l'âne lui annonça qu'il fallait sceller Mandarbe et Nœud d'Amour. Une femme aux cheveux gris s'occupa de la solide jument marron de Nineveh, et trois hommes blanchis sous le harnais s'affairèrent pour extraire de la stalle l'étalon noir de l'âne.
« Je veux que tu me fasses une promesse, »
dit Nineveh, pendant qu'ils attendaient. Mandarbe dansait en rond, obligeant le type qui le scellait à lui courir autour.
« Un serment, en fait. Je suis sérieuse, l'âne Mandragoran. Nous ne sommes plus seuls.
Que veux-tu que je jure ? Demanda Lan, méfiant.
Tu iras à Falmoran avant d'entrer dans la flétrissure. Et si quelqu'un veut t'y accompagner, tu accepteras.
Lan eut un triste petit sourire. Ninevé, j'ai toujours refusé d'emmener des hommes dans la flétrissure. Parfois, certains ont chevauché avec moi, mais je ne...
Si certains ont chevauché avec toi, coupa l'ancienne sage-dame, d'autres pourront recommencer. Je veux que tu jures. Sinon, je te laisserai chevaucher d'ici jusqu'au Chienard. Un très long chemin.
La femme n'avait pas encore fini de boucler les sangles de celle de la jument. Avec Mandarbe, c'était encore pire. Les trois hommes en étaient toujours à tenter de le sceller.
Dans le sud du Chienard, où comptes-tu me laisser exactement ?
Demanda Lan. En l'absence de réponse, il capitula.
Très bien. Si c'est ce que tu veux, je jure au nom de la lumière et de mon espoir de salut et de résurrection.
Ninevé eut du mal à ne pas soupirer de soulagement. Elle avait réussi, et sans mentir. Désireuse d'obéir à Egwen, elle agissait comme si elle avait déjà prêté les trois serments. Mais sans mensonge, même en cas d'absolue nécessité, qu'il était dur de gérer un mari.
« Embrasse-moi, » dit-elle. « Ce n'est pas un ordre. J'ai simplement envie d'embrasser mon mari. »
Un baiser d'adieu. Plus tard, il n'aurait pas le temps.
En public, s'étonna Lan.
« Tu es si pudique d'habitude. » La jument était presque prête, et Mandarbe serait bientôt scellée.
« Ces gens sont trop occupés pour voir quoi que ce soit. Embrasse-moi, sinon je vais penser que tu es celui qui... »
Les lèvres de Lan réduisirent sa femme au silence. Un peu plus tard, serrée contre lui, Ninevé reprit son souffle pendant qu'il lui caressait les cheveux.
« Et si nous passions une nuit ensemble, au Chienard ?» proposa Lan. « Nous serons peut-être séparés pendant longtemps, et avoir le dos griffé me manquera. »
Rouge comme une pivoine, Ninevé s'écarta de son mari d'un pas hésitant. Leur tâche accomplie, les palefreniers regardaient leurs pieds, mais ils étaient assez proches pour entendre.
« J'ai peur que ce soit impossible. Je ne veux pas laisser Rand seul si longtemps avec Olivia. »
« Il a confiance en elle. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est ainsi. Et c'est tout ce qui compte. »
Ninevé haussa les épaules, comme si un homme pouvait savoir ce qui était bon pour lui. Nœud d'amour et nid de déplaisir, tandis que les deux époux se frayaient un passage entre les cadavres, en direction d'un bout de terrain près d'une étable que la jeune femme connaissait assez bien pour y ouvrir un portail. En destrier bien dressé, Mandarbe semblait ne pas remarquer les mares de sang et les dépouilles mutilées. Maintenant que l'âne le montait, les talons noirs étaient aussi calmes que son maître. Ninevé pouvait comprendre cette réaction. Sur elle aussi, l'âne avait un effet apaisant. En général, car parfois, il lui faisait bouillir les sangs. Elle aurait adoré qu'ils aient encore une nuit ensemble. Le rose aux joues, Ninevé mit pied à terre et s'unit à la source, sans utiliser son angréal. Puis elle tissa un portail assez grand pour qu'elle puisse le franchir en tenant Nœud d'amour par la bride. Elle déboula dans une prairie semée de bosquets de hêtres et d'arbres qu'elle ne connaissait pas. Alors que le soleil, proche de son zénith, brillait dans un ciel dégagé, il faisait nettement plus froid qu'en Théar. Assez pour qu'on resserre autour de soi les pans de son manteau, pour tout dire. À l'est, au nord et au sud, des pics couronnés de neige se dressaient. Dès que l'âne l'eut rejointe, Ninevé dissipa son tissage, puis généra un deuxième portail, plus grand, et se hissa en selle. Mandarbe, toujours tenu par la bride, l'âne avança de quelques pas vers l'ouest. À moins d'une vingtaine de pas, une falaise surplombait l'océan.
« Tu peux me dire ce que ça signifie ? Nous ne sommes pas au Chienard, mais au Saldaea, à bout du monde. » Aussi loin du Chienard qu'il est possible en restant dans les terres frontalières.
J'ai dit que je te conduirais dans les terres frontalières, Lan, et j'ai tenu parole. Souviens-toi de ton serment, mon cœur, parce que moi, je ne l'oublierai pas.
Sur ces mots, Ninevé talonna sa jument et franchit le second portail. Lan cria son nom, mais elle laissa l'ouverture se refermer derrière elle. Voilà. Elle avait donné à son mari une chance de survivre. Quelques heures après midi, moins d'une demi-douzaine de tables étaient occupées dans la grande salle commune de la Lance de la Reine. Pour la plupart, les femmes et les hommes, tous bien habillés et accompagnés par des comptables et des gardes du corps, étaient là pour acheter ou vendre des poivrons, qui poussaient généreusement sur les contreforts des monts Banican, également appelés le mur de la mer par beaucoup d'habitants du Saldaea. Waylin Aldragoran se fichait royalement des poivrons. Le mur de la mer offrait d'autres fruits, beaucoup plus précieux.
« Mon dernier prix !» dit-il, en agitant une main au-dessus de la table.
À chaque doigt, il portait une bague ornée d'une pierre précieuse. Pas trop grosse, mais de qualité. Un vendeur de gemmes devait être sa propre pancarte publicitaire. Aldragoran ne se limitait pas à ça. Il vendait aussi des fourrures, du bois rare pour les ébénistes, des épées et des armures de luxe, et tout ce qui pouvait rapporter gros. Mais sa principale source de revenus, ça restait les gemmes.
« Je ne le baisserai plus !»
La table était couverte d'un carré de velours noir, le meilleur fond pour exposer une bonne partie de son stock. Des émeraudes, des saphirs, des rubis, et cerises sur le gâteau, des diamants. Plusieurs étaient assez gros pour intéresser un souverain, et aucun ne pouvait être qualifié de petit.
Bien entendu, tous étaient sans défaut. Dans les terres frontalières, Aldragoran était connu pour la perfection de ses pierres.
« Acceptez-le, ou quelqu'un d'autre le fera !»
Le plus jeune des deux Ilianiens assis en face d'Aldragoran, un type rasé de près nommé Pavil Geraneos, ouvrit rageusement la bouche, mais son compagnon, Georg Damentanis, sa barbe grisonnante tremblotant, lui posa une main sur le bras et le gratifia d'un regard horrifié. Aldragoran ne fit aucun effort pour dissimuler son sourire. Encore enfant quand les Trollocs avaient fondu sur le Malkaire, il ne gardait aucun souvenir de ce pays. D'ailleurs, il y pensait rarement, laissant les morts enterrer les morts. Pourtant, il se félicitait d'avoir autorisé son oncle à lui offrir un Hadori. À une autre table, Managan disputait un concours de beuglement avec une terrienne noire affublée d'une fraise, les oreilles ornées de grenats de mauvaise qualité. À eux deux, ces imbéciles couvraient la musique de la joueuse de tympanon perchée sur une estrade, à côté d'une des grandes cheminées de pierre. Managan, un jeune homme, avait refusé le Hadori, tout comme Gorenelin, un gaillard à peu près du même âge qu'Aldragoran. Gorenelin marchandait âprement avec deux altariens à la peau cuivrée. L'un d'eux portait un gros rubis à l'oreille gauche, et de la sueur lustrait le front de Gorenelin. Personne n'osait élever la voix face à un homme porteur du Hadori et d'une épée. C'était le cas d'Aldragoran. Du coup, les gens lui épargnaient aussi les suées. Les hommes comme lui, disait-on, pouvaient se montrer violents sans avertissement. S'il dégainait rarement son arme, tout un chacun savait qu'il en était capable et qu'il n'hésiterait pas.
« J'accepte, maître Aldragoran !»
déclara Damentanis, en foudroyant son compagnon du regard. Comme s'il ne s'en était pas aperçu, Geraneos dévoila ses dents avec l'espoir qu'Aldragoran prendrait ce rictus pour un sourire. Aldragoran ne releva pas. Après tout, il était un marchand. Une réputation se révélait bienvenue quand elle augmentait votre pouvoir de négociation. Mais qui, à part un crétin, aurait cherché la bagarre pour des broutilles? Le comptable des Ilianiens, malingre, grisonnant et de la même nationalité qu'eux, ouvrit leur cassette renforcée de fer sous l'œil des deux gardes du corps, des colosses en veste de cuir couvertes de disques d'acier. À la ceinture, chacun des deux hommes au collier de barbe caractéristique portait une épée et un gourdin. Dans le dos d'Aldragoran se tenait son propre comptable. Incapable de distinguer une extrémité d'une épée de l'autre, ce type originaire du Saldaïa avait un œil d'aigle. Sinon, Aldragoran n'avait aucun besoin de garde du corps. Pour sa demeure, c'était une autre affaire. Mais il se chargeait de sa propre sécurité, de quoi embellir encore sa réputation. Quand Damentanis eut endossé deux lettres de change et posé sur la table trois bourses pensues, Aldragoran compta les pièces sans se donner la peine de les peser. Certaines de ces couronnes provenant de 10 pays différents seraient un peu plus légères que les autres, mais il passerait ça par profit et perte. La transaction terminée, les Ilianiens trièrent soigneusement les pierres, les glissèrent dans des bourses, puis rangèrent celles-ci dans leur grande cassette. Aldragoran proposa d'offrir la tournée, mais Damentanis refusa poliment. Les gardes du corps portant la lourde cassette, le petit groupe se retira. Ainsi chargé, comment ces hommes, colosses ou non, pouvaient-ils protéger qui que ce soit? Si Kayaku n'avait rien d'une ville sans loi, on y trouvait plus de voyous que par le passé, ces derniers temps. Des voleurs, des tueurs, des incendiaires, des criminels de tout poil. Sans parler de pervers auxquels il valait mieux ne pas penser, si on tenait à sa santé mentale. Mais c'était aux Ilianiens de défendre les gemmes à présent. Si Rutan, le comptable, avait ouvert la cassette d'Aldragoran, deux solides porteurs attendaient dehors, il restait assis, les yeux rivés sur les lettres de change et sur les bourses. Une moitié de plus que le prix espéré. Et même si les couronnes du Mourandi et de l'Altara se révélaient plus légères, ça resterait une merveilleuse affaire. La meilleure année d'Aldragoran est de loin. Tout ça parce que Geraneos avait laissé transparaître sa colère. Après, Damentanis n'avait plus osé marchander. Une chose magnifique, la réputation.
« Maître Aldragoran, »
dit une femme en se penchant vers la table.
« On m'a confié que vous recouriez beaucoup aux pigeons pour votre correspondance. »
Par réflexe, Aldragoran encensa d'abord les bijoux de l'inconnu. Une fine ceinture d'or et un long collier, tous les deux incrustés de rubis de haute qualité. Il en allait de même pour un des bracelets de la femme, avec des pierres vert pâle ou bleues qu'Aldragoran ne reconnut pas, ce qui les classait d'autorité dans la catégorie « toc ». Au poignet gauche, l'étrange bracelet relié à 4 bagues par des chaînettes n'était pas rehaussé de gemmes, mais sur les deux autres brillaient de très beaux saphirs et quelques gemmes vertes non identifiables. À la main droite, la femme portait 2 bagues où se trouvait sertie une de ses pierres et 2 autres ornées d'un très beau saphir. Magnifique même. Soudain, Aldragoran s'avisa que l'inconnu avait un 5e anneau à la main droite, à côté d'une des bagues sans valeur, un serpent qui se mordait la queue. Aldragoran leva enfin les yeux, découvrit le visage de la femme et fut encore plus troublé. Sous la capuche se cachait un visage d'une jeunesse peu caractéristique. Cela dit, l'inconnu portait la bague au serpent, et très peu de femmes étaient assez folles pour s'y aventurer sans en avoir le droit. En 2 ou 3 occasions, Aldragoran avait vu des Aes Sedai juvéniles. Donc, l'âge de cette femme n'avait en fait rien pour le troubler. mais sur le front, elle arborait un kisain, ce point rouge qui signalait une épouse. Pourtant, rien en elle ne laissait deviner un lien quelconque avec le Malkier. Parmi les gens du pays, plus jeunes que le marchand, beaucoup avaient l'accent du Saldaea, comme lui, du Candor, de la Raphaël ou du Chienard. Mais cette sœur ne parlait pas comme une ressortissante des terres frontalières. De toute façon, depuis quand n'avait-on plus entendu parler d'une novice originaire du Malkier? La Tour Blanche avait abandonné ce pays, et les survivants du désastre lui tournaient le dos. Pourtant, Aldragoran se leva promptement. Avec les Aes Sedai, la courtoisie était toujours recommandée. Surtout quand elle vous dévisageait avec un regard noir. Oui, la courtoisie s'imposait.
« Comment puis-je vous aider, Aes Sedai? Vous désirez envoyer un message par l'intermédiaire d'un de mes pigeons? Vous rendre service sera un plaisir. »
Avec les sœurs, il était tout aussi judicieux de se montrer serviable. Et un pigeon, ce n'était pas grand-chose.
« Un message, oui, mais à tous les marchands de votre connaissance natifs comme vous du Malkier. Tarmon Gaidon est pour bientôt. »
Aldragoran haussa les épaules, mal à l'aise.
« Où est le rapport avec moi, Aes Sedai? Je ne suis qu'un humble marchand. »
La sœur demanda qu'il mobilise beaucoup de pigeons. Des compatriotes, il en connaissait jusqu'au fin fond du Chienard.
« Mais j'enverrai votre message. »
Oui, il le ferait. Tant pis pour la petite armée de pigeons. Pour ne pas tenir parole vis-à-vis d'une sœur, il fallait être décérébré. En outre, Aldragoran avait hâte de se débarrasser de cette fâcheuse et de ses prévisions sur l'ultime bataille.
« Reconnaissez-vous ceci ?»
demanda la sœur, en tirant une lanière de cuir de sous son col. Le souffle coupé, Aldragoran tendit une main pour toucher la chevalière qui pendait au bout de la lanière, la grue dorée en plein vol. Comment cette femme avait-elle eu cette relique? Par la lumière, comment?
« Oui, je sais ce que c'est, »
croassa Aldragoran.
« Je me nomme Nineveh Tialmeara Mondragoran. Voici mon message. Mon mari, parti de bout du monde, chevauche vers la brèche de Tarwin pour participer à Tarmon Gaidon. Devra-t-il chevaucher seul ?»
Aldragoran tremblait de tous ses membres, sans savoir s'il riait ou pleurait. Cette Nineveh était donc la femme de...
« Madame, j'enverrai votre message. Mais je n'ai rien à voir dans tout ça. Je suis un marchand, et le Malkier est mort. Bien mort, croyez-moi. »
Les yeux jetant des étincelles, la Aes Sedai saisit sa natte d'une main.
Un jour, l'âne m'a dit que le Malkier vivra tant qu'un seul homme portera le Hadori, en témoignage de sa volonté d'affronter les ténèbres. Aucune femme arbora le Kisain pour affirmer sa détermination à envoyer ses fils les combattre. Maître Aldragoran, j'ai un Kisain sur le front, et mon époux porte un Hadori. Comme vous. L'âne Mandragoran chevauchera-t-il seul jusqu'au lieu de l'ultime bataille?
Aldragoran s'avisa qu'il était plié en deux de rire. Pourtant, des larmes ruisselaient sur ses joues. C'était de la folie. Oui, de la démence pure. Mais il ne pouvait pas s'en empêcher.
« Il ne chevauchera pas seul, madame. Pour les autres, je ne peux rien garantir, mais je vous jure, au nom de la lumière et sur mon espoir de salut et de résurrection, qu'il ne sera pas seul. »
Un moment, la sœur dévisagea Aldragoran, puis elle hocha la tête, une seule fois, et se détourna. Le marchand voulut la retenir.
« Puis-je vous offrir à boire, madame? Mon épouse voudra absolument vous connaître. »
Née au Saldaea, Alida n'avait rien à voir avec le Malkier, mais elle désirerait sûrement rencontrer la femme du roi sans couronne.
« Merci, maître Aldragoran. Mais je dois passer dans plusieurs villes aujourd'hui et être de retour en Théard dès ce soir. »
Soufflé, Aldragoran regarda la femme du roi sans couronne s'éloigner en resserrant sur son torse les pans de son manteau. Encore plusieurs villes et de retour en Théard ce soir? Les Aes Sedai étaient décidément capables de miracles. Un grand silence régnait dans la salle commune. Les marchandages avaient cessé, et la musicienne délaissait son tympanon. Alors que les regards se braquaient sur Aldragoran, presque tous les étrangers étaient bouche bée.
Managan, Gorenelin, vous rappelez-vous qui vous êtes? Savez-vous quel sang coule dans vos veines? Qui m'accompagnera jusqu'à la brèche de Tarwin?
Un moment, il sembla qu'aucun des hommes ne répondrait. Puis Gorenelin se leva, des larmes aux yeux.
La grue dorée vole vers l'ultime bataille,
souffla-t-il.
La grue dorée vole vers l'ultime bataille,
cria Managan. Bondissant sur ses pieds, il renversa sa chaise. Hilar, Aldragoran se joignit à ses compagnons pour beugler à tue-tête.
« La grue dorée vole vers l'ultime bataille !»